BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel des principaux titres de l'actualité. La guerre au Moyen-Orient est face à l'échec des discussions avec les Américains. Les Iraniens cherchent désormais le soutien des Russes. Le ministre iranien des Affaires étrangères est arrivé ce matin à Saint-Pétersbourg où il doit être reçu par Vladimir Poutine. L'Iran parle déjà de front uni avec la Russie et accuse les Américains d'être responsables de l'échec des discussions de paix au Pakistan face au blocage du détroit d'Ormuz, de nouveau paralysé. Les prix du pétrole repartent à la hausse. Le baril de Brent pour livraison en juin dépasse ce midi les 109 dollars. Tension persistante également sur le marché obligataire avec un 10 ans français autour des 3,66%. Les marchés suspendus également aux décisions des grandes banques centrales cette semaine. Réunion d'abord de la réserve fédérale américaine à partir de demain et jusqu'à mercredi, la dernière présidée par Jerome Powell. Dans ce contexte, les analystes tablent sur un statu quo. Jeudi, ce sera au tour de la Banque Centrale Européenne et là aussi, prudence attendue avec un maintien de ses taux anticipés. Face au retour de la menace inflationniste, les observateurs tablent tout de même sur une hausse au mois de juin. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Écoutez BFM Business dans les grandes villes de France. En live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com.
BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements, de toutes les situations qui vous concernent, que vous soyez locataire ou propriétaire. Et ça tombe bien parce que le pro de l'IMO du jour va s'intéresser à tous ces maillons de la chaîne immobilière dans des cas assez exceptionnels, notamment celui de catastrophes naturelles. On va faire un focus sur Angers et sa région. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Et aujourd'hui, on va parler du marché locatif et plus précisément du marché de la location. Meublée moyenne durée. Vous verrez ce que c'est dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Sébastien Blanvillain, directeur général, l'adresse Anjoumène. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marie.
Alors je le disais, on va parler de situations qui malheureusement se reproduisent de plus en plus, en témoigne le coût de nos assurances d'ailleurs, hein, on parle de catastrophes naturelles. Dans votre région, bah, vous avez eu des inondations et vous avez constaté l'impact de ces inondations, de ces catastrophes naturelles sur, quand je disais tous les maillons de la chaîne immobilière, c'était sur les locataires comme sur les propriétaires.
Oui, tout à fait. On a été touché début février. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas été, on n'avait pas connu une telle situation où, en effet, on s'est retrouvé avec plusieurs communes, des dizaines et dizaines de logements inondés. Et c'est vrai qu'il a fallu gérer l'urgence et ça a un impact, en effet, sur le locataire puisque celui-ci se retrouve du jour au lendemain avec un bien qui est partiellement ou totalement inondé. Donc, il faut qu'il se reloge. Donc, il faut savoir que le propriétaire, lui, n'a aucune obligation de reloger son locataire. Donc, ça veut dire que le locataire doit se débrouiller pour, via son assurance ou via éventuellement la mairie, pour trouver un logement. Donc, déjà, c'est impactant, effectivement, pour le locataire. Forcément, le propriétaire, lui, c'est impactant parce que le droit du locataire, dans ce cas-là, c'est d'arrêter de payer totalement ou partiellement son loyer. Donc, le propriétaire, lui, se retrouve dans une situation où il n'a plus de loyer. Donc, il faut qu'il fasse appel à son assurance pour éventuellement avoir une réparation de son préjudice locatif. Et puis, bien entendu, après, c'est toute la partie qui va être expertise, travaux. Voilà, c'est la remise en état du logement. Et ça prend des mois.
C'est ce que j'allais dire, tout ça prend du temps. Mais ma question, c'est justement, vous, comment vous intervenez dans ces moments-là, que ce soit sur la gestion locative avec le locataire, que ce soit sur le marché de la transaction, de l'évaluation du patrimoine aussi, ça doit être compliqué, du recours aux assurances, qui s'en occupe? Est-ce que vous intervenez dans cette chaîne-là? Comment ça se passe?
Oui, bien sûr, en tant que gestionnaire locatif, on se doit bien sûr de prévenir les assurances, on essaye de faire le lien parce que le locataire, bah, lui est dans une situation de stress, donc on est là aussi pour l'accompagner, pour prévenir son assurance, puisqu'on a tous les éléments pour le faire, prévenir aussi l'assurance du propriétaire, que tout ça se mette un petit peu en marche, commander, alors les expertises reviennent vers nous aussi pour les rendez-vous. Donc en effet, c'est un vrai travail qui dure sur des semaines, puisque là on rentre simplement dans une phase, et on est quasiment 3 mois après, où les assécheurs arrivent dans les logements parfois. Donc, ça veut dire que pendant toute cette période-là, bah, c'est effectivement pas mal d'incertitudes. Donc, ça, c'est sur la partie locative. À partir sur la partie transaction, On se retrouve dans des cas de figure où vous avez des propriétaires, des futurs acquéreurs qui ont acheté des logements qui se sont retrouvés inondés et qui souhaitaient se désengager. Et là, forcément, dans le compromis, c'est une zone qui est à risque, qui est inondable. Hein, le RP, les PPRN, etc., les plans de prévention des risques naturels, pardon, ont bien été indiqués. Et hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, ça dépend si on se passe du côté acquéreur ou vendeur, l'acquéreur ne peut pas se rétracter. C'est pas parce que la maison a été inondée, c'est une zone inondable qui peut se rétracter. Donc en effet, on a aussi pas mal de gestion, non pas conflictuelle, mais de pédagogie avec le notaire, avec les acquéreurs, les vendeurs, pour expliquer que la vente, elle doit aller jusqu'au bout.
Mais du coup, ça se passe comment? Alors pardon, mais ça m'intéresse particulièrement ce cas-là de la transaction qui était en cours, finalement, avec ce compromis de vente. Est-ce que l'acheteur, il a d'ores et déjà un assureur? Comment ça se passe? Parce que comme on est quand même très en amont de la vente, enfin, qui assume les coûts au final?
Alors là, c'est encore le vendeur, puisque la maison appartient encore au vendeur. Donc, c'est l'assurance du vendeur, bien entendu, qui va faire le nécessaire. Et l'acquéreur, on va certainement repousser un petit peu l'acte authentique pour que la maison soit rendue à nouveau soit habitable, soit à l'état où elle était lors du compromis.
Et ça, là-dessus, Sébastien, on n'est pas du tout sur les cas de maisons fissurées avec, vous savez, les retraits gonflement des argiles. Le système assurantiel fonctionne mieux que là-dessus, non? Quand on est sur un cas d'inondation.
Je pense oui, parce que hélas, on en a de plus en plus. Et c'est vrai que les assureurs, ils sont un petit peu maintenant au fait du jour par rapport à cette situation-là. Alors c'est vrai qu'en plus, vu le volume qu'il y a eu, il y a forcément un automatisme qui a permis d'aller un peu plus vite qu'habituellement. Bon, les maisons fissurées, c'était encore un autre souci. Là, c'est des problèmes structurels qui sont totalement étrangers aux locataires. Mais là, la complexité, c'est que tout le monde, voilà, locataire, propriétaire, assurance, agence immobilière, artisan, tout ça doit, expert aussi d'assurance, tout ça doit rentrer effectivement dans une certaine logique de calendrier, en fait.
Voilà. Sébastien, j'ai une dernière question à vous poser parce que notre réalisateur Alban, qui est à fond dans nos sujets et qui a toujours des questions très pertinentes, me dit, mais qu'est-ce qui se passe quand, en cours de route, la zone qui était peut-être pas inondable au départ, elle le devient? Est-ce que là, pour le coup, ça remet en cause ce qui a été signé ou pas?
Alors là, je suis pas un juriste, on va dire, qui pourrait vous citer des articles. À mon avis, si effectivement lors du compromis, la zone n'est pas inondable, elle devient inondable, je pense que là, il y a peut-être une remise en question. Ça, c'est possible. Là, il faudrait creuser. Hein. Je veux pas aller au-delà de mes compétences. Tous les cas de figure, en tout cas, que nous avons eu, c'est clairement des zones qui étaient inondables, qui ont prouvé qu'elles étaient inondables. Hélas, on n'a pas eu de cas où on a des zones qui étaient non inondables et qui sont devenues inondables. Je ne sais pas si... J'ai un doute sur le fait de dire qu'il y a une zone non inondable qui est devenue inondable. En tout cas, dans notre secteur, j'en ai pas connaissance à ce jour.
Mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être de nature à contester de la part de l'acquéreur au moment après signature du compromis de vente, pour le coup.
Oui, vraisemblablement, bien sûr.
Mais on reprendra le temps parce que vraiment, ce sujet est passionnant et malheureusement, ce sont des épisodes qui sont amenés à se multiplier. Merci pour votre témoignage, Sébastien Blanvillain, directeur général de l'adresse Anjou-Maine. Si, comme Sébastien, vous avez des témoignages à nous apporter à l'antenne de BFM Business, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et deux invités pour parler de cette location meublée. Alors du coup, rien à voir avec nos histoires d'inondation, mais enfin quand même, de vrais sujets qui nous intéressent tous, qu'on soit locataire ou propriétaire investisseur. Jean Gouvion de Saint-Cyr, directeur de Barnes Rental. Vous pouvez pas avoir des noms à français, c'est pas possible. Vous m'obligez à avoir toujours cet accent pourri, c'est horrible.
Bonjour Marie.
Bonjour Jean. Et à mes côtés également, Frédéric Lecoq, président de Paris Attitude. Mais oui.
Ça se dit dans les deux langues. Bonjour Marie.
C'est très bien en version franchouillarde. Donc messieurs, je le disais, on va parler de la location. Alors la location meublée, vous insistez chez Paris Attitude sur ce concept de moyenne durée. Alors est-ce que vous pourriez nous dire, évidemment c'est une réponse de Normand, mais donc si c'est de la moyenne durée, c'est pas de la courte, mais c'est pas de la longue. Donc c'est quoi précisément?
Alors, moyenne durée. Pourquoi, en fait, déjà, je fais la distinction, et depuis longtemps, parce que, en fait, on est souvent assimilé à des...
Airbnb, acteurs, on va le dire, voilà.
Je n'aime pas les citer, vous le faites pour moi, merci Marie. Non, en fait, c'est nous, en fait, on est dans du logement, on n'est pas dans de l'hébergement. Donc la différence, c'est que hébergement, c'est plutôt court, logement, c'est plutôt long.
Ouais.
Notre moyenne de durée de location, c'est 10,6 mois
ouais.
sur l'ensemble de nos locations de 2025. La plupart de nos locataires, en fait, viennent pour des raisons professionnelles. Quand je dis la plupart, on a des raisons professionnelles où l'entreprise paye, la plupart où on a des salariés qui ont un budget alloué par l'entreprise et d'autres, en fait, qui s'hébergent eux-mêmes pour des raisons professionnelles et une mobilité pro.
Mais donc, moi, la location meublée longue durée, elle est quand même de toute façon plus courte que la location vide longue durée, on est d'accord ?
Oui.
C'est quoi ? C'est 9 mois, c'est ça, les beaux
12 mois.
12 mois ?
12 mois.
Ah, vous êtes fort.
Par défaut, elle est plus longue, elle est plus courte parce que la durée des beaux est plus courte.
Oui, c'est ça, et qu'elle est renouvelée tous les ans, et alors que c'est tous les 3 ans pour un.
Exactement.
Voilà, je ne suis pas si nulle que ça, finalement. Ok, donc location moyenne durée meublée. Et là, je me retrouve avec cette situation de quel type de bail je signe. Et vous allez me sortir de votre chapeau tous les deux le fameux bail code civil. Alors, s'il est employé à bon escient, c'est bien. S'il est à mauvais escient, je m'adresse à tous nos auditeurs et téléspectateurs qui seraient tentés par ce bail code civil. Rappelons les règles ensemble, messieurs, s'il vous plaît. C'est quoi le bail code civil ?
Le bail code civil, c'est un bail de droit commun qui est régi entre un propriétaire et un locataire et librement négocié entre les parties. Voilà. Je dis bien librement. Après, effectivement...
Il fait fi de l'encadrement des loyers, par exemple.
Bien sûr. Des préavis, du montant du dépôt de garantie...
On peut tout fixer en amont et on peu importe si ça ne respecte pas le bail loi de 89 classique.
Voilà. Bail de droit commun donc qui n'est pas régi par une loi. C'est un bail libre.
Alors là, j'imagine tous les investisseurs qui nous écoutent disent « Waouh, mais c'est génial !» Et après, on rajoute « Oui, mais... »
Bien sûr.
Pour pouvoir pratiquer ce bail code civil, il faut que le logement ne soit pas destiné à un usage de résidence principal. Et c'est là que vous vous adressez, que ce soit du côté de Barnes ou de Paris Attitude, plutôt à des entreprises ou à des gens en mobilité, des gens qui ne vont pas rester.
Voilà. Il s'appelle aussi bail résidence secondaire. Et dans cette dénomination-là, il prend tout son sens. Parce qu'effectivement, on est dans le cadre en fait, d'un hébergement, d'un logement en fait, qui devient non principal parce que à durée déterminée.
Mais c'est important de le rappeler, je vous le dis, parce qu'effectivement, on en avait beaucoup parlé au moment des Jeux Olympiques, parce que vous aviez beaucoup de propriétaires bailleurs qui, pour anticiper et puis pour voir faire partir le locataire quand ça les arrangeait, avaient signé des baux de ce type-là. Il y en a encore qui existent, moi j'ai vu, alors voilà. Et vous regardez sur Internet, quand vous voyez que le loyer dépasse allègrement l'encadrement des loyers, quand c'est pas précisé sur les sites d'annonce, parce que parfois c'est précisé, au moins c'est honnête, mais quand c'est pas précisé, si vous voyez qu'on vous demande des dépôts de garantie, qui atteignent des montants stratosphériques et des loyers qui dépassent allègrement l'encadrement, ça sera un bail code civil. Et n'oubliez pas que ça, on n'a pas le droit si ce n'est pas justement par vos biais. Il faut que ce soit quand même fait dans les règles de l'art. Je préfère le dire. Une fois qu'on l'a dit, maintenant, à qui vous vous adressez ? Quel est l'usager, justement, qui n'est pas, sans doute pas, en tout cas, en résidence principale dans ces logements, en fait, du coup ?
Alors, principalement des grandes entreprises du CAC 40. On travaille avec une centaine de sociétés aujourd'hui qui font venir des collaborateurs du monde entier, des États-Unis, d'Europe, pour qu'ils puissent travailler en France, qu'ils viennent en expatriation pour des durées entre 1 et 3 ans. Et donc ces gens-là, effectivement, soit arrivent avec l'avantage du bail société, c'est-à-dire que l'entreprise prend le bail à son nom.
C'est ça, c'est dans ces cas-là, c'est l'entreprise qui est locataire en fait.
Je dirais que principalement, le code civil prend tout son sens avec justement ce type de bail. L'entreprise prend le bail à son nom pour l'usage de son collaborateur. Et à partir de ce moment-là, on négocie propriétaire et entreprise un bail pour qu'il soit bien fait. Après, effectivement, on peut aussi avoir, et actuellement on en a beaucoup, des Américains. On a beaucoup d'Américains qui arrivent actuellement à Paris. Et tant mieux pour nous d'ailleurs, et qui pour se loger. Et donc on a des entrepreneurs, des Américains qui arrivent avec leur propre entreprise, et là effectivement, donc ils se logent via leur entreprise.
Ouais.
Ou alors, on le sait, ces pays anglo-saxons comme l'Australie, les États-Unis, fiscalement, ils restent très souvent rattachés d'où ils viennent. Donc c'est une résidence secondaire qui est tout à fait justifiée. Et d'ailleurs, on fait attention chez Barnes à ce que.
C'est une espèce de résidence secondaire qu'on loue, en fait.
Voilà, exactement.
C'est ça.
La résidence principale reste à l'étranger. par un bien, par même fiscalement les impôts. Et en France, ils viennent uniquement que pour travailler, et même parfois des pieds-à-terre. On a des Américains qui viennent 6 mois et repartent.
Frédéric, vous me disiez avant que l'émission démarre, puisque vous parliez, Jean, de l'arrivée d'Américains aussi, qui était de plus en plus présent, l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur votre marché en ce moment, vous voyez d'autres types de clientèle revenir.
Oui, mais ce n'est pas le seul impact, c'est-à-dire que, enfin, quand je dis que ce n'est pas la seule cause, pardon, la conséquence, c'est qu'effectivement, on a un retour d'expatriés français, en fait, qui reviennent quand il y a une situation conflictuelle, en fait, dans une région du monde. En ce moment, c'est le Moyen-Orient, et effectivement, on voit, en fait, quelques ressortissants français, en fait, qui nous appellent en nous disant voilà, j'ai besoin en fait d'un logement pendant une période donnée, le temps que en gros le conflit se calme.
Règle, ouais, ouais.
Donc on a eu depuis de nombreuses années, on a eu des ressortissants ukrainiens qui venaient, qui fuyaient l'Ukraine. On a eu quand la Libye est tombée, le printemps arabe, toutes ces périodes-là en fait nous ont amené à avoir des mouvements de population qui ont un besoin de logement en fait pour une durée déterminée. Et là, dans ce cas-là, en fait, le bail code civil prend tout son sens. Il existe depuis suffisamment longtemps pour pouvoir le justifier. Mais effectivement, on le voit, il y a une couverture médiatique en fait qui est de plus en plus importante là-dessus. On voit qu'en fait, il y a quelques abus. Il y a quelques propriétaires qui se disent tiens, si je pouvais vétier de respecter l'encadrement du loyer par ce biais-là, eh ben, je m'engouffre dans la brèche. Mmh. Et sauf que effectivement, c'est une erreur, c'est une malversation de la loi.
Et le risque derrière, c'est que le locataire qui rentre dans les lieux et qui se rend bien compte qu'il n'est pas là au titre d'une résidence secondaire, mais bien d'une résidence principale, mm-hmm. peut se retourner contre le propriétaire. Je le dis au locataire qui nous écoute, je sais qu'il y en a beaucoup. Si c'est votre cas, bah, vous pouvez faire requalifier le bail et donc obtenir une baisse sans doute assez massive du loyer, notamment.
Bah, du coup, revenir sur un bail dit plus classique, soumis à la loi du 6 juillet 89, et donc dans ce cas-là, avec toutes les contraintes qui sont liées à ce bail, donc l'encadrement des loyers, l'encadrement du dépôt de garantie, l'encadrement des préavis, tout ça s'applique du coup de manière rétroactive.
Mais j'imagine que ça ne fait pas vos affaires à tous les deux, justement, ces abus. Parce que quelque part, finalement, est-ce que ça ne jette pas un peu une mauvaise image sur les baux que vous signez, que vous faites signer aux propriétaires avec les entreprises locataires ou les expats ou voilà. C'est quand même compliqué pour vous de gérer ça, j'imagine.
Alors, effectivement, les agences aujourd'hui qui se disent spécialisés dans le code civil, c'est un vrai problème.
Ouais.
C'est un vrai problème parce que forcément, avec nos deux agences qui sont quand même des agences qui ont pignon sur rue, qui sont très connues à Paris, si aujourd'hui il y a un spécialiste qui ne fait que ça, c'est que forcément, il le fait de manière pas forcément légale.
Ouais.
Il faut savoir que nous aujourd'hui, je parle pour Barnes, on a un taux de code civil qui malheureusement augmente dans Paris intramuros, mais on est également...
Pourquoi vous dites malheureusement augmente ? Ça m'intéresse.
Parce qu'en fait, par défaut, on sait qu'encore une fois, ce sujet de résidence secondaire, il est fragile. Et donc, il nous expose. Nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on a un devoir de conseil envers nos bailleurs. Et on sait que malheureusement, parfois, le propriétaire me dit « je veux absolument un bail code civil pour ne pas être impacté par l'encadrement de loyer ». Et donc, nous, professionnels de l'immobilier, avec le peu d'offres qui est actuellement sur le marché, on se retrouve en concurrence avec des agences qui disent c'est pas grave, on y va.
Ouais, nous on va le faire quand même.
Voilà.
Ouais.
Et donc ça c'est problématique. Mes partenaires aujourd'hui de relocation, donc qui amènent tous ces clients expatriés, sont tous les jours nous disent ce n'est plus possible. Donc après des solutions on en a plein, parce qu'on pourra en reparler. Mais c'est vrai que cette mauvaise concurrence qui dit je ne fais que du code civil ne peut pas bien le faire. Ça c'est une évidence. Après il y a des alternatives. Ce bail de mobilité professionnelle plus court.
Le bail mobilité, donc. Mm-hmm.
Alors attention, le bail mobilité, il est quand même soumis à la loi Allure. Hein.
Ouais.
Voilà, c'est quand même soumis à l'encadrement. Donc on a des solutions. Il peut y avoir un bail précaire, par exemple, qui est une bonne alternative aussi.
C'est quoi entre le bail. Alors il va falloir qu'on s'y retrouve parce que c'est quoi la différence, ce bail précaire avec le bail code civil ou avec le truc de l'État là, bail sûr, mobilité.
La convention d'occupation précaire, elle est comme le bail code civil, c'est un convention droit commun. Donc c'est régi entre les parties. Le bail mobilité, lui, est régi par la loi du.
Oui, mais par rapport, alors du coup, par rapport à ce bail précaire, c'est pas exactement comme le bail code civil, du coup.
Si.
Ah si, d'accord. C'est parce que là, je croyais qu'il y avait encore une autre alternative.
Non, c'est une autre dénomination.
D'accord. Voilà,
effectivement,
okay.
On l'appelle bail code civil, bail résidence secondaire, et il y a bail précaire aussi.
Parce que le bail précaire, il faut réellement justifier de la précarité de ce bail.
Oui, bah bien sûr.
Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui exactement comme une résidence secondaire, si on n'arrive pas à la justifier, ce n'est pas une résidence secondaire. Le bail d'occupation précaire, c'est pareil, s'il y a une vraie dénomination précaire de ce bail, il est propre et c'est bien.
Et il y a une demande pour ça, messieurs, c'est ça. Enfin, parce que là, vous me dites, effectivement, j'imagine. D'ailleurs, il me semblait, quand j'avais bossé sur le sujet de ce bail code civil ou bail précaire, qu'à l'origine, s'il avait été là aussi, c'était précisément, il concernait exclusivement, fut un temps, ces fameuses entreprises qui cherchaient à héberger leurs salariés en mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une forte demande de la part des entreprises ?
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Les demandes sont toujours plutôt constantes, je dirais. Effectivement, comme Jean l'indiquait, on reçoit chez nous, chez Paris Attitude, de plus en plus en fait de demandes étrangères. On est à peu près à une proportion actuellement de 75% de nos clients qui viennent de l'étranger, qui sont de nationalité étrangère. Donc, dans ce sens-là, en fait, ça répond exactement à la problématique, en fait, l'encadrement, en gros, du bail code civil. Et est-ce qu'on a une augmentation de nos beaux codes civils en ce qui nous concerne? Je dirais que c'est plutôt stable. Il y a quand même un effet effectivement plutôt néfaste en fait de, je dirais, des acteurs qui ne respectent pas en gros le cadre légal en fait du bail code civil, du bail société, et on le voit en fait nous dans certains propriétaires qui candidats propriétaires, donc qui nous appellent pour référencer leurs biens chez Paris Attitude et qui nous disent je ne veux que ça. Mais ça ne marche pas comme ça.
Mais alors justement, il nous reste 6 minutes. Je voudrais qu'on s'adresse à tous ces propriétaires qui cherchent à optimiser leur investissement, mais à respecter les règles. Donc, où est-ce qu'il faut que se situe le bien ? Comment est-il ou pas adapté ? Est-ce qu'il est adapté en fonction peut-être de la typologie du bien ? Peut-être que ça marche sur les petites surfaces et moins sur les grandes ou pas. D'ailleurs, je dis peut-être une énorme bêtise. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des localisations, des typologies de biens qui se prêtent plus que d'autres à ces baux civils qui peuvent permettre effectivement de maximiser le rendement, quoi.
Alors là, on peut faire en fait deux familles de biens destinés en fait à certaines familles en fait de candidats locataires. Les clients étrangers, 75% chez Paris Attitude, quand ils viennent en fait pour une mission à durée déterminée, ils n'ont pas envie de s'expatrier, trop loin. Ils ont envie de vivre leur expérience professionnelle expatriée à Paris, au cœur de Paris. Donc, en fait, ils veulent être à l'intérieur de Paris. Même si l'entreprise est située en petite couronne ou en grande couronne, ils préfèrent, en fait, faire le trajet, mais vivre, en fait, dans Paris. Donc, ça, c'est très, très important.
Et ça,
important.
On peut le transférer aussi, parce qu'on m'accuse pas de faire du parisianisme, mais on peut le transférer à d'autres grandes villes, type Lyon.
Oui, exactement. Par exemple. Voilà. Exactement. C'est propre, en fait, à toute ville.
Et tout expat qui a envie vraiment
expat,
de vivre
exactement.
Dans le cœur de la métropole.
Exactement. Et si on se transpose en français expatrié, en fait, dans une ville à Londres ou n'importe quelle ville, on a envie, on va dire, de s'enterrer exactement très très loin. On a envie de vivre, en fait, au cœur de la ville. Pour ce qui est des clients français, alors nous, les clients français, en fait, on a une part d'étudiants, on a une part de mobilité professionnelle aussi qui viennent de province ou éventuellement des dom-tom, par exemple, ça arrive aussi souvent. Et là, dans ces cas-là, en fait, on se rapproche plus, on va dire, de
quartiers plus populaires ou alors
de quartiers qu'on a connus, de quartiers où on a des amis, de quartiers proches de son travail. Donc il y a ces éléments-là aussi qui changent.
Du côté chez Barnes, je sais pas, moi Barnes c'est plutôt, j'imagine quand même le bien un peu prestigieux, donc j'imagine que vous êtes beaucoup plus.
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que pour répondre vraiment à la clientèle aujourd'hui qui est éligible et qui même sera même peut-être plus intéressée par ce code civil, je vous disais, il y a une arrivée massive d'Américains actuellement avec un très fort pouvoir d'achat, donc des locations qui peuvent vraiment s'envoler, plus de 10 000 euros par mois. Souvent, ces Américains, ils n'ont aucun justificatif de revenu. Donc, il faut être un peu souple. C'est-à-dire qu'on appelle ça des dossiers un peu plus atypiques.
Ouais.
Et donc, on peut se retrouver, par exemple, à avoir des paiements annuels, des choses comme ça. Et donc,
et ça, c'est possible avec le bail code civil.
Voilà, exactement.
Waouh.
Voilà, ça, c'est possible avec le bail code civil. Tous les propriétaires n'acceptent pas, mais ça permet effectivement d'avoir un petit peu de trésorerie et puis surtout de sécuriser cette location. Donc voilà, c'est vrai que ce profil aussi aujourd'hui très très haut de gamme de la clientèle. Le bail code civil va pouvoir effectivement être un peu plus souple. On va pouvoir travailler ensemble les durées, etc.
Pour oui, que et parce que j'ai Alban qui me demande dans l'oreillette, il me dit est-ce qu'il peut y avoir des cautions, mais j'imagine que c'est le fameux dépôt de garantie qui peut être très élevé aussi par la souplesse du bail code civil.
Bien sûr, mais après, en fait, souvent on dit le code civil permet tout. Après, encore une fois, c'est un contrat qui signe entre deux parties.
Ouais, ouais, c'est-à-dire que faut-il que le locataire accepte.
Exactement, et très régulièrement, d'ailleurs je le dis à mes bailleurs et à nos équipes, je dis attention, notre bail code civil, il est relativement souple, c'est-à-dire qu'on voit des beaux codes civils toute la journée, lorsqu'on travaille avec des gestionnaires, etc., on voit des beaux codes civils très stricts, beaucoup plus proches finalement d'un bail commercial. Donc nous, on reste sur des beaux d'habitation, et je leur dis, attention, plus vous êtes strict, plus vous avez de chances d'avoir un logement vacant. Voilà, ça c'est la réalité.
Parce que c'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, l'enjeu, c'est quand même, quitte à maximiser mes profits grâce au déplafonnement des loyers, etc., autant qu'il y ait des gens qui le louent, parce que si je suis trop gourmand, j'ai personne.
Tout à fait. Si un bailleur veut faire un code civil complètement délirant, même s'il respecte l'encadrement du légal en fait du code civil,
il n'y aura personne.
Il n'y aura personne, voilà. Exactement, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Et messieurs, justement, je voudrais terminer là-dessus parce que vous avez parlé des étudiants. Moi, les étudiants avec un bail code civil, je ne comprends pas trop parce que le niveau des loyers, je trouve ça énorme en fait. Et je ne vois pas comment un étudiant peut véritablement prétendre à un bail code civil compte tenu du niveau exorbitant des loyers.
C'est dans le cadre en fait d'une durée très courte.
Oui, bien sûr, mais alors il faut que ce soit vraiment le temps d'un stage. Oui,
bien encore. Sûr, c'est ça.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est peut-être le souci de ces baux-là? Est-ce que ça ne peut pas avoir un effet inflationniste sur tout un tas de locataires qui cherchent à se loger parfois durablement dans les villes, en fait?
Ma conviction, c'est que ça a un effet en fait, inflationniste si, effectivement, ça devient un effet de mode et que beaucoup de propriétaires en fait, s'engouffrent en fait, dans ces effets de mode en ne respectant pas le cadre légal du bail code civil. Si on respecte le bail code civil dans sa forme légale, qui existe depuis très très longtemps, il n'y a aucun risque en fait, que ça prenne en fait, une inflation des montants des loyers.
Si je peux effectivement compléter, je pense que c'est aussi à nous, acteurs de l'immobilier, de faire attention à ce marché qui est fragile, ça, c'est sûr. Et donc, savoir dire aux propriétaires...
Là, ce n'est pas possible.
Voilà. Vous voyez, par exemple, il y a des zones à Paris, même à Tramuros, le sud du 15e, où j'ai certains fonds d'investissement avec qui on travaille, qui nous disent « je ne veux que du code civil ». Je leur dis, c'est pas, on a essayé, ça ne fonctionne pas. Donc, à nous aussi de parfois,
d'adapter,
bien sûr, de savoir dire non,
bien sûr,
et de travailler sur du long terme, c'est un peu d'éducation, je pense, mais ne pas aller à la facilité du code civil, de continuer un petit peu à lutter, et ça fonctionne vraiment aujourd'hui. On a nos partenaires nous remercient tous les jours de faire ça. Alors, c'est pas, on est là aussi pour faire des locations.
Ouais, bien sûr.
Il y a peu d'offres, énormément de demandes.
Mais tout en répondre. Respectant la règle.
Mais on essaie de le faire au maximum et je pense que ça nous va bien.
Et je vais garder ça pour le dernier mot de l'émission parce que le jingle de fin est déjà parti. Et j'adore cette phrase, savoir dire non, mais c'est l'histoire de la vie, ça. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à Jean Gouvion de Saint-Cyr, directeur de Barnes Rental à la française. Frédéric Lecoq, président de Paris Attitude à la parisienne. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de l'Immo sur BFM Business.
Les Experts de l'Immo sur BFM Business.